Radico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre, dont vous pouvez retrouver les derniers opus dans la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ouais, ça y est, un dirigeant autoritaire de 70 ans a franchi le pas, il veut laisser sa marque dans l'histoire. Vladimir Poutine a profité de manœuvres en Biélorussie pour organiser plus facilement l'invasion de l'Ukraine, pour justifier son geste qu'il est difficile à justifier, loin s'en faut. Eh bien, le dictateur russe parle de génocide, oui, contre les populations de l'Est de l'Ukraine, de dénazification de l'Ukraine. Et il parle également de rendre la liberté aux Ukrainiens. Des Russes ont manifesté contre la guerre et de leurs dirigeants, et eux ont été arrêtés. Donc, en termes de liberté, j'ai pas l'impression que notre expert soit véritablement Vladimir Poutine. La guerre idéologique est chaude, battent leur plein, les insultes, les caricatures et les missiles pleuvent. Des idiots utiles, poutinophiles, ont pondu régulièrement des avis convaincus sur les volontés du dirigeant russe et dans un certain nombre de pays, on a une vitrine qui s'appelle RT, Russia Today. Eh bien, le 22 février, soit la veille du début de la guerre quand même, sur RT, Russia Today France, un certain Bruno Guigues, ancien sous-préfet et expert, oh tiens, j'ai mis des gros guillemets, en Proche-Orient, écrivait ceci. Dans un texte qui s'intitule « En Ukraine, seul l'hégémonisme des États-Unis a intérêt à la guerre ». Donc je cite Bruno Guigues. « Les rotatives de la désinformation auront beau se répéter ad nauseam, chacun sait que la Russie n'envahira pas l'Ukraine. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle ne souhaite pas la guerre et qu'elle compte obtenir la satisfaction de ses exigences par d'autres voies. » Voilà, c'était la veille de la déclaration de guerre et c'est croquignolesque si on ne parlait pas de guerre. De fait, il apparaît que l'enregistrement qui est passé mercredi était celui qui a permis de reconnaître les deux républiques populaires, je cherchais l'expression qui fleure bon la guerre froide. Donc les deux républiques populaires à l'est de l'Ukraine ont été reconnues lundi et lors de la même allocution, a priori, puisque il a le même costume, les mêmes angles, la même tête, etc. Eh bien, la déclaration de guerre qui a été diffusée en pleine nuit mercredi était donc enregistré. Alors ben là, notre Bruno Guigues, lui, il dit le lendemain de la reconnaissance des deux démocraties populaires, des deux républiques populaires du Donbass, eh bien, il dit exactement l'inverse de ce que dit Poutine dans son allocution qui paraîtra le lendemain, mais qui avait été enregistrée la veille. J'espère que vous me suivez. Eh bien, suit alors dans le texte de Bruno Guigues un développement pour montrer à quel point les États-Unis sont les manipulateurs du jeu et comment les dirigeants russes, eux, résistent au scénario des États-Unis. Et on continue, enfin, on est presque à la fin du texte et on peut lire que les États-Unis aient intérêt à la réalisation d'un tel scénario, heureusement, ne signifie pas qu'il verra le jour. Il est plus que probable qu'aucune guerre de grande ampleur n'éclatera. Et pour une raison très simple, pour qu'elle ait lieu, il faut que les deux camps soient résolus et y participer. Or, la Russie n'en veut pas et les États-Unis n'en veulent que si elle est faite par les autres. Ouais, alors le Bruno Guigues, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de truc. Le 28 janvier dernier, toujours sur RT France, on pouvait lire, sous le titre « Qui menace la paix en Ukraine ?», c'est l'hystérie anti-russe des puissances occidentales qui jette de l'huile sur le feu et non cette menace imaginaire contre l'Ukraine que les affabulateurs de la presse atlantiste attribuent à la Russie. Il est bon celui-là, il est bon, faudra le garder. Bruno Guigues, il a été préfet, je sais pas s'il faut le reprendre en tant que tel, parce qu'il croit souvent à ses élucubrations. Bon, ben, je crois que je vais arrêter de le lire, hein, le Bruno Guigues. La propagande va s'amplifier et chaque camp possède des canaux nombreux, pendant que les dirigeants, eux, jouent à avancer des troupes sur des cartes, des gens ordinaires, ni plus coupables que vous ou que moi, subissent actuellement des bombardements. Et ça, ben, rien n'est capable de le justifier. On peut rappeler la phrase de Paul Valéry, un philosophe de la fin du 19e et du 20e siècle français, « La guerre, Un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. On aurait pu vous parler de la lutte qui paie. Le parti Reconquête de l'à-peu-près lectuel Éric Zemmour n'a pas pu se réunir à Saint-Coulon, près de Saint-Malo, parce que la pression de la population sur la mairie fut trop forte. En clair, le rapport de force était au désavantage des réactionnaires d'extrême droite. Les Bretons ne pourront donc pas écouter les discours ethno-différentialistes. Non, non, on n'est pas raciste, mais quand même, hein, la culture des autres, elle est moins bien que la nôtre. Hein. De Stanislas Rigaud, des Jeunes avec Zemmour, ni du représentant régional, ni du Bruno Nors, le président du parti Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Oh là là, non, les gens de ce parti disaient bien qu'ils n'étaient pas d'extrême droite et racistes. Ah bah non, ils n'étaient pas anti-ceci, anti-cela. Non, 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 c'était des gens qui voulaient juste le respect des traditions. Bon, bah là, ça apparaît un tout petit peu plus clair. Bon, partout, toujours, il faut montrer la présence d'autres idées. Personne n'est étranger, en tout cas sur Terre. Il n'existe pas de hiérarchie entre êtres humains, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Toutes les religions, toutes, entraînent des dérives communautaires et intégristes, et pas simplement l'islam. Petit rappel, on n'est toujours pas obligé non plus de supporter les affiches et autocollants en affichage libre. Alors ben, quand vous voyez la tête de certains, vous n'êtes pas obligé de les supporter. On aurait pu vous parler de Éric Prieur, le conseil d'administration du MPES, c'est le Mouvement pour la prospérité économique et sociale, qui se compose des mêmes membres que notre bureau politique, m'a choisi pour être candidat à l'élection présidentielle de 2022. Au Mans, vous pouvez trouver des petites affiches montrant un certain Éric Prieur du Mouvement pour la prospérité économique et sociale. Il faut dire qu'il habite le Mans, le monsieur Prieur. Et ben là, il a été choisi pour être candidat à l'élection présidentielle de 2022. Alors on voit ses affiches, candidat à l'élection présidentielle de 2022. Mais alors on s'est dit, tiens, on va aller voir au niveau du Conseil constitutionnel s'il a des parrainages. Pas un! Pas un! Ah bah alors! Bon, bah je crois qu'il faut un petit peu plus bosser. Par contre, il y en a qui en ont plein. Alors moi, je me suis arrêté au 24 février. Bon, il n'y a pas si longtemps quand même pour les auditeurs du direct. Eh bien, Valérie Pécresse en a plus de 2000. Macron en a plus de 1500. Il n'est même pas candidat. Anne Hidalgo en a plus de 1200. Yannick Jadot, plus de 600. Roussel, Fabien, 593. Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Jean-Luc Mélenchon ont également passé la barre des 500. Et puis, bah, certains ont du mal. Certains ont du mal. Éric Zemmour et Marine Le Pen. Alors, ben, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut, puisqu'il représente un courant d'idées, il faut qu'ils aient la possibilité de concourir à l'élection présidentielle. Ok, d'accord. Lui, il espère en tout cas que les deux vont un petit peu se neutraliser et pourquoi pas lui apparaître comme deuxième. Bon, bah oui, puis on se demande hein, pour qui les forces de l'ordre vont voter s'il n'y a pas de représentants d'extrême droite, puisqu'on sait que les policiers et gendarmes sont surreprésentés parmi les électeurs. Oui, oui, plein d'enquêtes de gens très, très intéressants et très importants, hein, puisqu'on les voit à la télé, le CVPOF et compagnie, eh bien, nous disent bien que les forces de l'ordre sont surreprésentées parmi les électeurs d'extrême droite. Et puis, bah, dans tout ce beau monde, on nous parle de plein de gens et puis il y en a d'autres dont on n'entend pas beaucoup parler. Pourtant, un certain Philippe Poutou du NPA a presque 250 parrainages. Hey, c'est pas rien, comment ça se fait qu'il passe moins à la télé que d'autres ? On a également un certain Anas Kazib. Alors lui, il représente un courant du NPA qui s'appelle Révolution Permanente. 130 parrainages. Il en avait plus le 24 février que Christiane Taubira. Et pourtant, Christiane Taubira, à chaque fois que quelque chose se passe, on lui demande son avis. Anas Kazib, on s'en fout. Philippe Poutou, on s'en fout aussi. Eh oui, il vaut mieux être d'extrême droite pour être défendu dans ce pays que d'extrême gauche. Je rappelle que l'extrême gauche a pour but une certaine égalité entre les populations, en tout cas au niveau social. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'extrême droite. Non, non, l'extrême droite et le capitalisme, l'accumulation de profits, ben ça va très très bien ensemble. Hein. On a pu le voir lors d'un certain nombre de prises de pouvoir, que ça soit au Chili il y a 40 ans ou dans l'Allemagne nazie il y en a 80. Le Pen a arrêté sa campagne, Marine Le Pen a arrêté sa campagne cette semaine, sa campagne de terrain. Pourquoi ? Ben pour aller à la pêche au parrainage. Si elle pouvait arrêter sa campagne tout court. Bon, c'est peut-être aussi parce que les bus de campagne se font régulièrement caillasser et qu'il apparaîtrait que, comme ce sont des publicités politiques, eh bien, ils n'ont pas le droit de s'arrêter quelque part. Maintenant, quand il s'arrête, comme dans la région de Besançon cette semaine, eh bien la police est là pour protéger le bus du caillassage ou d'autres choses, parce qu'il y a des manifestants qui sont pas tout à fait d'accord. Et oui, la police n'est pas là pour faire respecter la loi, elle est là parfois pour protéger des gens qui ne la respectent pas. On aurait pu vous parler des activités de plein air de la semaine. Les éboueurs et autres ouvriers chargés de gérer nos déchets, presque un kilo par jour et par personne en France, quand même. Eh bien, ils veulent être mieux rémunérés et que les précaires soient intégrés. Et ils n'ont pas continué à être dans la précarité. Aussi, les voilà en grève dans Le Mans Métropole. Ah, Le Mans Métropole, c'est le nom bien prétentieux de la communauté urbaine du Mans, qui réunit une vingtaine de communes autour du Mans. Donc, ils sont en grève depuis mardi. Vendredi, les ouvriers de la cuisine centrale qui alimente les écoles et les foyers pour retraités sont entrés dans la danse. Et là, j'ai pu lire dans la presse locale, de la part d'un syndicaliste CGT, on lance une alerte à Monsieur Le Foll pour lui dire que tous les agents des collectivités en ont ras-le-bol. Déplore donc un syndicaliste CGT. On n'a pas été augmenté depuis 12 ans. Ah, ça fait mal, 12 ans, vous vous imaginez ne pas être augmenté depuis 12 ans? Eh ben, il y a plein de gens qui sont dans cette situation-là. Eux se battent, réclament une meilleure rémunération. Je crois que là, légitimement, ils ont un petit peu raison. Mais par un communiqué de presse, le maire de Le Mans, Stéphane Le Foll, indique, je cite, « Cette demande représenterait une charge salariale supplémentaire de près de 8 millions d'euros par an pour la collectivité. Cette revendication est évidemment inacceptable en l'état, puisqu'elle conduirait à une augmentation conséquente des impôts payés par les habitants et à une remise en cause du développement de nouveaux services publics pourtant indispensables pour nos administrés. Ah, mettre les contribuables de son côté. Oui, ça, c'est une bonne technique pour décrédibiliser l'adversaire. 8 millions d'euros, on balance un chiffre comme ça avec plein de zéros et tout de suite, on sait où se retrouvent les nantis. Ah, 8 millions d'euros à se partager là, à tous ces gens-là qui gèrent nos déchets là. Ah, je le fais bien, ouais, je me suis entraîné. En l'occurrence, des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Ouais, c'est pas la mieux lotie. Pour les 8 millions, moi j'aimerais bien un petit détail, mais ça, je crois qu'on ne l'aura pas. Eh ben, en tout cas, ça continue lundi à la cuisine centrale et puis sûrement lundi à la Chauvinière. À suivre. Lundi 21 février, c'était les salariés de chez Renault qui débrayaient pour réclamer une hausse de salaire de 5% et plus d'embauches en CDI. On apprend également cette semaine que dans la région de Saint-Lô, un panneau publicitaire est encore tombé. Oui, il tombe comme des mouches. Encore un 4x3 qui titube et s'écrase. Est-ce l'obsolescence programmée qui ronge les pieds des panneaux ? Un mystère à suivre. On aurait pu également vous parler des jeunes qui vont aller voter. 8 sur 10, nous dit un sondage cette semaine. Mais une majorité assure que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte dans les débats. Aussi, ils se demandent si ça sert à quelque chose d'aller voter. On a pu entendre sur France 5, samedi 19 février, un personnage qui s'appelle Gilles Finchelstein, voilà, directeur général de la Fondation Jean Jaurès, qui détaillait une enquête faite par Cevipof et compagnie, il y en avait plein, et dont la Fondation Jean Jaurès.
Quand on regarde la hiérarchie des 5 premières préoccupations des 18-24 ans, on trouve en tête le pouvoir d'achat, ça c'est vrai pour tout le monde. Ensuite, juste à côté, l'environnement, et puis un peu plus loin, les inégalités sociales, les discriminations, le système scolaire. Quand on regarde la hiérarchie pour les plus de 70 ans, le pouvoir d'achat, là aussi, c'est pour tout le monde. Mais alors après, il n'y a pas une préoccupation en commun. Immigration, système de santé, délinquance, défense de la République.
Ah là là, eh oui. En fait, les débats ont lieu sur les idées des vieux. Pourquoi ? Parce que eux, ils vont voter. Et on sait qu'ils vont aller voter. Alors, pas les vieux des classes populaires, non. Les vieux, en plus, des classes... comment on va dire ça ? De la bourgeoisie ? Oui, parce que ça existe. La guerre des classes existe. Et en tout cas, les classes sociales, elles subsistent. Et donc, du coup, il y a un clientélisme de la part des candidats. Ils font des enquêtes d'opinion pour savoir ce que veulent ceux qui vont aller voter. Pas ce que veut la population, pas les débats les plus importants, pas les sujets les plus importants, les sujets de fond, non, mais pour qui vont-ils aller voter ? Puisque le but, c'est d'être élu. Oui, c'est pas du tout de travailler pour l'ensemble de la population. Non, c'est de faire carrière. Le clientélisme n'est pas la démocratie. Faire carrière en politique est un non-sens en démocratie. Et pourtant, les médias conformes martèlent ce mot démocratie à propos de la mascarade électorale. De fait, les débats, ce sont les sujets que voudraient voir mis en œuvre les électeurs. Oui, mais lesquels? Ben justement, ceux qui vont élire, pas du tout ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, pas du tout tous ceux qui pourraient avoir un intérêt en étant les habitants du pays, avoir un intérêt à vivre ici, à essayer de s'organiser ici. Non, le but c'est les sujets qui intéressent les électeurs, pas la population. Alors du coup, eh bien, la voix de tous n'est pas une option pour tous ceux qui participent à la mascarade électorale. Non, c'est juste un jeu de dupes pour asseoir une légitimité factice. Parce que elle est plus du tout reconnue. Une grande partie de la population ne reconnaît plus cette légitimité. Les gens se disent, bah oui, je vais aller voter, mais pour qui? Mais pourquoi? Eh ben, du coup, ils se posent tellement la question qu'à un moment, ils n'y vont plus du tout. Alors, encore plus d'un mois de discours enflammés qui n'abordent pas les sujets de fond, tout en se prenant très, très, très au sérieux. Ouais, faut les voir quand même, hein. Nous parler de l'immigration, nous parler de la défense de la République et des valeurs de la République. Alors qu'ils s'en battent les rouleaux. Ouais, ça va être très très long. Encore plus d'un mois, ça va être très 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 long. Mais finalement, on a préféré vous parler d'anthropologie. La dernière fois, on avait abordé le concept de pauvreté. Vous vous souvenez, dans les anthropologues, il y a les mêmes écoles que dans les écoles économiques, dans les écoles d'études économiques. En l'occurrence, quand on parle de l'économie, est-ce que l'on parle de l'économie formelle, que l'on appelle formaliste chez les anthropologues, c'est-à-dire une économie où finalement le but c'est l'appât du gain et la rareté des ressources avec lesquelles on doit maximiser le profit, bah ouais, c'est la philosophie libérale, ou est-ce que c'est l'économie substantielle, comme disait Polanyi, ou alors l'école substantiviste, puisque il apparaît que l'économie a quand même pour but de produire de la nourriture, de produire des marchandises pour les utiliser, tout simplement, et pas pour les thésauriser, les accumuler et faire un maximum de profit. Ces deux écoles se retrouvent dans l'anthropologie, et donc, notre vision du monde, biaisée par l'imaginaire libéral, nous fait voir les peuples qui ne vivent pas selon les concepts libéraux du capitalisme comme pauvres. Alors, comment peut-il en être autrement pour une civilisation dont l'économie est basée sur l'appât du gain dans un contexte de rareté des ressources desquelles il faut tirer le maximum de profit? Eh ben oui, comment? C'est du moins le problème de notre imaginaire libéral. On n'arrive pas à voir comment s'organiser autrement. Seulement le concept d'abondance, qui de fait revient à l'idée de suffisant, accepte plusieurs formes, l'abondance des uns n'étant pas celle des autres. Dans un livre qui s'intitule « Âge de pierre, âge d'abondance », sous-titré « L'économie des sociétés primitives », un ouvrage synthétique de 1976, un certain Marshall Salins écrit: il y a deux voies possibles qui procurent l'abondance. On peut aisément satisfaire des besoins en procurant beaucoup ou bien en désirant peu. La conception qui nous est familière, celle de Galbraith, est fondée sur des hypothèses plus particulièrement adaptées à l'économie de marché. Les besoins de l'homme sont immenses, voire infinis, alors que ses moyens sont limités, quoique perfectibles. On peut réduire l'écart entre fin et moyen par la production industrielle, au moins jusqu'à ce que les besoins urgents soient pleinement satisfaits. Mais il y a aussi une autre voie, une voie zen, là aussi il met des guillemets, qui mène à l'abondance à partir de principes quelque peu différents des nôtres. Les besoins matériels de l'homme sont finis et peu nombreux, et les moyens techniques invariables, bien que pour l'essentiel appropriés à ses besoins. En adoptant une stratégie de type zen, un peuple peut jouir d'une abondance matérielle sans égale avec un bas niveau de vie. Tel est, je crois, le cas des chasseurs. Et ainsi s'expliquent certains aspects paradoxaux de leur comportement économique. Leur prodigalité, par exemple, leur propension à consommer en une seule fois tout leur stock, comme si les biens de ce monde leur tombaient du ciel. Ignorant cette obsession de la rareté qui caractérise les économies de marché, les économies de chasse et de cueillette peuvent miser systématiquement sur l'abondance. Ah ! allons bon. Donc l'abondance pourrait exister même si on a un niveau de vie bas. Tout dépend de ce que l'on considère comme étant des besoins. Décentrer son analyse permettrait donc de voir la présence du suffisant lorsque les libéraux ne voient que la pauvreté. Seulement, l'étude des économies de peuples dits primitifs, en gros les peuples de chasseurs-cueilleurs, que Salins appelle chasseurs-collecteurs, pâtit d'un préjugé, celui attaché à nos ancêtres préhistoriques. Le paléolithique, le vieil âge de pierre, est celui des chasseurs-collecteurs, alors que le néolithique, le nouvel âge de pierre, correspond à la mise en place de l'agriculture, qui serait donc l'évolution décisive vers la civilisation. Par ce préjugé, on compare donc des pauvres préhistoriques du paléolithique avec les peuples de chasseurs-collecteurs actuels, et ceux-ci ont donc peu de chances d'évoluer vers la qualité d'éleveurs-cultivateurs. Mais en ont-ils envie ? Seulement, ces malchanceux semblent persister dans leur volonté de ne pas devenir des civilisés. Je reprends le livre de Marshall Salins, Âge de pierre, âge d'abondance. Et là, il nous parle d'un certain Douglas Olivier, qui est anthropologue et qui s'est intéressé au CUA de Bougainville. Bougainville étant en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une île qui est juste à l'ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Prenons les Siouais de Bougainville. Douglas Olivier décrit en ces termes, qui nous sont désormais familiers, comment le travail de jardinage se heurte à divers obstacles culturels, au point que le rendement réel reste nettement en deçà des possibilités. Je cite donc Douglas Olivier, cité par Marshall Salins. Il n'y a bien entendu aucune raison physique qui interdise une augmentation du rangement. Il n'y a pas véritablement pénurie de terre et on pourrait forcer sur le travail et d'ailleurs souvent on force. Les femmes siouaient à s'affairer dans leur jardin, mais elles y déploient beaucoup moins d'énergie que certaines femmes papoues. Elles pourraient sans grand risque d'épuisement travailler plus longtemps et plus dur. Elles pourraient sans doute, mais en vertu de normes de travail différentes. Ce sont des facteurs culturels plutôt que physiques qui influent sur les normes siouais de la durée du travail. Lors de la mort d'un parent ou d'un ami, le jardinage est tabou, et ce pour une durée assez longue. Les femmes qui allaitent ne sont pas autorisées à quitter leur nourrisson plus de quelques heures par jour, et souvent pour des raisons rituelles. Le bébé ne doit pas être emmené au jardin. Outre ces restrictions rituelles, portant sur les travaux de jardinage continu, interviennent d'autres limitations moins évidentes. Ainsi, on arrête tout travail à la moindre petite averse. On a coutume de partir au jardin lorsque le soleil est déjà haut dans le ciel et de rentrer à la maison vers le milieu de l'après-midi. Parfois, un ménage passe la nuit dans son jardin, dormant dans un cabanon, mais les plus ambitieux et les plus entreprenants sont seuls à se donner tant de peine et de tracas. Le Mr. Olivier en question, Douglas Olivier, est finalement de sinistre mémoire, hein, puisqu'il a aidé dans les années 1960 une entreprise minière australienne à mettre le pied sur l'île de Bougainville pour y exploiter quoi ? Ben, une mine qui détruisit une partie du milieu de vie bougainvillois. De fait, pour l'heure, il continue en nous parlant des Siouais, il explique la durée du travail chez les habitants de l'île. Je reprends. En fait, les indigènes s'enorgueillissent de leur aptitude à évaluer leurs besoins de consommation individuelle et à produire juste assez de taro. Le taro, c'est une légumineuse qui se mange. A priori, c'est pas très bon. Donc, et à produire juste assez de taro pour les satisfaire. C'est à dessein que j'écris « besoin de consommation individuelle » car le taro figure fort peu dans les échanges rituels ou commerciaux. Néanmoins, les besoins de consommation individuelle varient considérablement. La différence est grande entre la quantité de taro consommée par un homme ordinaire, possesseur d'un ou deux cochons, et un ambitieux qui en a 10 ou 20. Ce dernier doit constamment étendre ses cultures pour nourrir son troupeau qui s'accroît et se procurer les nourritures végétales qu'il prodigue dans ses festins. Ainsi est mis en pratique l'idée du suffisant. Finalement, les motivés deviendront peut-être des puissants, mais ils le seront par leur surplus de travail personnel et non pas en exploitant le travail des autres. Salins accumule les données produites par d'autres anthropologues pour nous livrer son analyse du mode de production domestique, qu'il appelle le MDP, le mode de production domestique qui caractérise les économies dites primitives. Je le cite. Durant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, le travail a signifié plus que l'outil. Les efforts intelligents du producteur ont été plus déterminants que son outillage rudimentaire. Jusqu'à très récemment, toute l'histoire du travail est celle du... Jusqu'à très récemment, toute l'histoire du travail est celle du travail produit par une main-d'œuvre qualifiée. Seul un système industriel peut espérer survivre avec une proportion de travailleurs non qualifiés telle que nous la connaissons actuellement. Dans une situation analogue, le paléolithique aurait péri et les principales révolutions primitives, notamment celle qui, au néolithique, a abouti à la domestication des ressources nourricières, ces révolutions ont toutes représenté de pures victoires de la technique humaine, des relations nouvelles avec les sources d'énergie existantes, plantes ou animaux, plutôt que de nouveaux outils et de nouvelles sources d'énergie. Et lors du passage du paléolithique au néolithique, la panoplie d'outillages de la production de subsistance peut fort bien s'appauvrir dans le même temps que la production va s'accroissant. Car qu'est-ce que le bâton à fouir du Mélanésien en regard de l'attirail de pêche au phoque de l'Eskimo d'Alaska ? Jusqu'à l'avènement de la révolution industrielle proprement dite, le produit du travail humain a augmenté beaucoup plus grâce au savoir-faire de l'ouvrier que à la perfection de ses outils. Apparemment, hors de propos, ces considérations quant à l'importance des techniques humaines intéressent pourtant directement notre analyse du MDP, c'est-à-dire du mode de production domestique. De fait, la mise en pratique du suffisant fait que on n'a pas forcément besoin de développer une technique qui va ensuite vivre d'elle-même, s'auto-alimenter, comme on le verra incessamment sous peu, en travaillant sur un certain Jacques Ellul. Ainsi donc, l'idée du suffisant, la production domestique a une valeur d'usage plutôt qu'une valeur d'échange. La production sert à être utilisée par la famille et peu importe sa taille et sa composition, et non pas à être échangée pour récupérer des revenus. On continue avec Marshall Salins qui nous dit « Bref, cette caractéristique du mode de production domestique, qu'il est production de valeur d'usage, nous ramène à la sous-production, dont l'existence constatée empiriquement a fourni le point de départ de notre interrogation. Le système domestique s'assigne des objectifs économiques limités, définis qualitativement comme mode de vie plutôt que quantitativement comme richesse abstraite. Le travail, de ce fait, est peu intensif, intermittent, et tout lui est prétexte à s'interrompre. N'importe quelle activité ou empêchement culturel, depuis le rituel le plus pesant jusqu'à l'averse la plus légère, l'économie dans les sociétés primitives ne se pratique pas à temps complet, ou bien elle n'engage pas la société au complet. Autrement dit, le mode de production domestique recèle un principe anti-surplus. Adapté à la production de biens de subsistance, il a tendance à s'immobiliser lorsqu'il atteint ce point. D'où il apparaît que si, par surplus, on entend cette part de la production qui excède les besoins des producteurs, le système de la maisonnée n'est pas organisé à ses fins. Rien dans la structure de la production de consommation ne l'incite à se transcender elle-même. La société tout entière repose sur cette clôture économique et donc sur une contradiction. Car à moins que l'économie domestique ne soit forcée hors de ses propres retranchements, la société tout entière périt. Économiquement parlant, la société primitive est fondée sur une anti-société. Ah bah oui, c'est de l'anthropologie. Hein. Alors du coup, même si j'ai pas tout compris, il apparaît quand même que économiquement, les peuples dits primitifs montrent une alternative à l'économie formelle des libéraux, basée sur la rareté et l'existence d'un marché où agissent des homo economicus. Le but de la vie, c'est pas de le gagner. Alors du coup, il conviendrait, nous, les civilisés, de peut-être réviser notre échelle de valeur. On ne peut pas se quitter sans vous dire que samedi 26 février à Le Mans, à 15h devant la préfecture, il y aura un rassemblement en solidarité avec le peuple ukrainien. C'est à 15h, place Aristide Briand, devant la préfecture. Et lundi 28 février, un documentaire sur les Gilets jaunes qui s'intitule « Un peuple » organisé par la Ligue des droits de l'homme aura lieu au Cinéaste lundi 28 février à 20h. On vous le conseille. Et vendredi 4 mars, Philippe Poutou, on en parlait tout à l'heure, il sera présent en meeting au Mans à la salle Barbara, c'est à Pontlieu. Il a, lui, un programme de lutte collective et de renversement du capitalisme. Moi, je dis banco. En attendant, eh bien, je vous dis tout simplement, allez, au revoir. Mm-hmm.